et bienvenue sur ce podcast. Je suis Isis du blog lesnouveautravailleurs.fr et vous êtes en train d'écouter le podcast numéro 5. Cet épisode, c'est le troisième de la série sur l'ikigai. Donc si vous n'avez pas écouté les précédents, je vous conseille de le faire pour pouvoir bien comprendre celui-ci. Donc les précédents, c'était le podcast numéro 2, comment trouver son ikigai, qui est un peu l'introduction de la série de 5. Et le podcast numéro 3, trouver son élément, qui était l'étape 1. Et donc aujourd'hui, on passe à l'étape 2 de ma méthode pour trouver son ikigai, trouver sa mission altruiste. Cette étape 2 s'attaque à la composante « ce dont le monde a besoin » qui est donc une des 4 composantes de l'ikigai. Et donc, comme pour l'étape 1, plutôt que de la prendre individuellement, de prendre le cercle tout seul, ce que j'ai fait, c'est que j'ai directement pensé au croisement entre les composantes précédentes qu'on a vues, qui étaient ce que j'aime et ce pourquoi je suis douée, qu'on avait rassemblé dans un seul, dans la jonction l'élément. Et donc là, on voit la jonction entre cet élément et ce dont le monde a besoin. Donc la question à laquelle on cherche à répondre avec cette étape 2, c'est comment est-ce que je peux utiliser mon élément pour être utile au monde et donner du sens à ce que je fais ? Donc j'ai choisi d'appeler cette jonction la mission altruiste. Alors mission, ça fait appel à quelque chose qui est plus grand que soi. C'est une chose à laquelle on contribue pour apporter sa pierre à l'édifice dans ce monde via le travail. Et altruiste, c'est pour montrer que la mission, elle ne nous sert pas uniquement individuellement, même si c'est le cas puisque quand même elle contribue à nous rendre épanouis. Mais la mission, elle est portée sur autrui, donc sur le fait de résoudre le problème d'autres personnes. Pourquoi est-ce que c'est important de trouver sa mission altruiste ? Comme je l'ai évoqué en introduction de la série des podcasts sur l'ikigai, dans notre société, on a tendance à privilégier le besoin individuel, donc trouver un emploi, obtenir une rémunération. Et pourtant, se sentir utile à l'autre et l'altruisme, ce sont des facteurs de bonheur. Mais nous, on n'est pas habitués et donc on est pressé d'avoir un salaire et donc on se lance dans des jobs. Et il en résulte deux choses. La première, c'est qu'on rejoint des jobs. Donc un job, en fait, c'est dans une entreprise qui a une mission collective, une vision. Et cette mission-là, elle ne nous parle pas forcément. Et la deuxième résultante, c'est qu'on devient acteur de la mission de quelqu'un d'autre, sans forcément être acteur de sa propre mission, notamment parce que parfois, on n'y a même pas réfléchi. Alors, je dis pas qu'on doit tous devenir entrepreneur ou patron pour créer notre propre mission, mais plutôt que si on décide de rejoindre une mission collective, donc une entreprise, on doit s'assurer que cette mission collective, elle nous donne aussi l'opportunité d'accomplir notre propre mission au passage. Mais encore faut-il la connaître, et ça justement, c'est le but de l'étape 2. On cherche à trouver notre mission altruiste, notre mission personnelle à aider les autres sur cette terre. Et alors moi, j'ai une petite image pour expliquer, pour clôturer sur la question pourquoi est-ce que c'est important de trouver sa mission altruiste. Je trouve que avancer sans mission, c'est comme se laisser porter dans un radeau sur la rivière sans avoir de pagaie pour diriger. Donc en gros, c'est la rivière qui décide où va le radeau et pas nous. Pour moi, avoir une mission, ça permet de donner une direction à ses actions, notamment dans le travail. Ça permet d'avoir le contrôle sur ce qu'on construit et ça permet d'avoir le contrôle sur son épanouissement personnel via le travail. Et là, vous êtes peut-être en train de vous dire, mais est-ce qu'une mission altruiste, ça veut dire que je dois sauver le monde ? Et qu'est-ce qui se passe si j'ai pas envie de sauver le monde ? Alors, une mission altruiste, justement, ça veut pas forcément dire qu'on cherche à sauver le monde. On n'est pas obligé de travailler dans l'environnement, on n'est pas obligé de sauver des vies, on n'est pas obligé de construire le prochain Apple ou le prochain Facebook. Ce qui compte dans la mission altruiste, c'est qu'elle ait du sens pour soi. Je l'avais dit dans l'introduction, l'ikigai, c'est vraiment quelque chose par rapport à soi et pas par rapport aux autres et aux perceptions des autres. Donc la mission, elle doit avoir du sens pour soi. Ça doit vraiment nous plaire de contribuer à ça. Et non seulement c'est personnel, mais en plus, la mission altruiste, elle peut se jouer à plein de niveaux de travail différents. On n'est pas obligé d'être dans des métiers super bien placés. Enfin, c'est vraiment quelque chose qu'on peut retrouver dans n'importe quel métier. Et pour illustrer ça, j'ai deux petites anecdotes. La première, c'est quelqu'un que je connais qui me raconte que dans son entreprise, tous les midis, les personnes vont manger au réfectoire. Et au réfectoire, il y a 4 caissières qui tiennent les caisses. Parmi ces quatre caissières, il y en a trois qui, bon, font leur boulot sans forcément être enchantées d'être là. Mais il y en a une quatrième. Elle a toujours le sourire et toujours optimiste et contente d'être là, toujours joyeuse. Et ce que m'expliquait cette personne qui me racontait ça, c'est que cette caissière, elle voit pas son boulot comme le boulot de caissière, voilà, juste passer des badges, etc. Elle s'est donné une mission, c'est d'apporter un peu de bonheur dans le quotidien des salariés de cette entreprise. Et donc sa mission, quand elle arrive à cette caisse, c'est d'apporter cette petite touche de bonheur. Et donc, elle regarde le nom sur le badge, elle le fait passer, elle appelle les gens par leur prénom, elle leur demande comment ça va, elle commence à les connaître, elle sourit. Et donc ça va bien au-delà de juste faire passer les badges. Et cette personne, elle est du coup heureuse de faire cette mission-là parce qu'elle a trouvé sa mission altruiste qui est apporter du bonheur aux autres. Ma deuxième petite anecdote, c'est de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, quelqu'un a demandé à un balayeur de la NASA quel était son travail. Et le balayeur n'a pas répondu « je balaye », il a dit « je contribue à envoyer des gens sur la Lune ». Donc ça aussi, ça montre comment est-ce que lui s'est approprié la mission de son entreprise pour sa propre mission. Il se dit « je viens pas ici tous les matins pour enlever la poussière, je viens ici tous les matins pour faire partie des gens qui envoient des gens sur la Lune ». Donc nous, ce qu'on cherche, c'est pas comment est-ce qu'on va sauver le monde, même si probablement que certains dans leur mission altruiste contribueront à des missions un peu comme ça. Mais ce qu'on cherche plutôt, c'est trouver quelque chose qui est un petit peu plus grand que nous et que notre job terre à terre. On cherche les gens qu'on a envie d'aider, le besoin auquel on a envie de répondre. Donc on va avoir deux grandes étapes dans cette étape 2. Premièrement, on va chercher la grande mission. Ce que j'appelle la grande mission, c'est justement cette mission qui est au-dessus de soi, où on cherche à répondre à un besoin et on cherche les gens qu'on a envie d'aider. Et deuxième étape, la mission altruiste, où là, on va faire le croisement entre cette grande mission et son élément. Donc, pour commencer avec la grande mission, j'ai quatre exercices à vous proposer. Et ces exercices sont tous très personnels, ils sont tirés de moi, donc même s'ils ressemblent à des choses que vous avez vues, ils viennent tous de réflexions que j'ai eues sur moi-même quand j'ai réfléchi à la question. Allez, c'est parti pour l'exercice numéro 1. Dans cet exercice 1, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que je veux contribuer au passé, au présent ou au futur? Et je vais vous raconter comment est-ce que j'en suis venue à cet exercice. En fait, je suis très sensible à l'environnement et avant, enfin il y a quelques années, je voulais travailler dans ce secteur-là. Finalement, aujourd'hui, je ne travaille pas là-dedans, je travaille dans l'épanouissement professionnel. Et pourtant, cette question de l'environnement, elle est toujours là. Et parfois, je me demande, mais pourquoi est-ce que j'ai pas retenté ma chance dans ce secteur? Qu'est-ce qui m'a bloqué? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, finalement, je ne suis pas en train d'aller vers ça alors que c'est quand même quelque chose qui est très présent dans mon esprit, très présent globalement dans ma vie. Et je me suis rendu compte que, à mes yeux, aider à enlever des sacs plastiques dans les océans, par exemple, qui est vraiment une mission, si je devais choisir une mission dans le secteur de l'environnement, ce serait celle-là la première. Donc ramasser des sacs plastiques, enfin enlever les sacs plastiques qu'il y a dans les océans, pour moi, ça veut dire réparer l'erreur commise par quelqu'un d'autre en amont. Et je me suis rendu compte que passer mon temps à réparer les erreurs, c'était pas une mission qui vraiment m'enchantait. C'est-à-dire que c'est quelque chose que j'aimerais bien faire, j'aimerais contribuer à ça, mais c'est pas la chose prioritaire pour moi parce que je trouve que c'est trop tourné vers le passé. Parce que si quelqu'un a déjà commis l'erreur, on est juste en train de réparer son erreur et on n'est pas en train de prendre le problème à la source et d'essayer de construire un nouveau modèle, par exemple. Et j'ai senti que moi, j'ai besoin de construire quelque chose, de construire quelque chose qui contribue à la fois au présent et au futur. Et j'en suis venue à distinguer trois types de missions. Je trouve que parmi tous les métiers qui existent, on peut les classer dans trois grandes catégories. Donc, il y a la catégorie des missions qui touchent au passé, celles qui touchent au présent et celles qui touchent au futur. Donc, comment est-ce qu'on les reconnaît? Donc, pour moi, les missions qui sont tournées vers le passé, alors, on peut croire que c'est négatif de dire c'est tourné vers le passé, mais en fait, non, le but des missions tournées vers le passé, ce que j'entends, c'est comprendre le passé, le réparer et limiter les dégâts de ce qui a été fait dans le passé. Donc, les exemples auxquels j'ai pensé, c'est par exemple l'archéologue qui aide à comprendre le passé, typiquement enlever les sacs plastiques des océans, ou encore faire justice à un innocent qui a été enfermé en prison. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est les missions du présent. Ça, pour moi, c'est les métiers où on apporte une aide à ceux qui en ont besoin aujourd'hui. Donc, par exemple, ça peut être les agriculteurs, puisqu'ils cultivent pas pour, ils cultivent pas pour des gens qui sont morts et ils cultivent pas pour les générations à venir, ils cultivent pour les gens qui sont là aujourd'hui sur la Terre. Pareil pour les médecins, ils soignent les gens qui sont là aujourd'hui. Les consultants, ils aident les entreprises qui sont là aujourd'hui, dans leurs problèmes d'aujourd'hui. Les chauffeurs de taxi, c'est un besoin qu'on a aujourd'hui, à un moment très précis, ou encore être policier. Et enfin, la dernière catégorie, ce sont les missions du futur. Et ça, c'est tout ce qui va être construire quelque chose qui va faire évoluer le monde d'aujourd'hui et qui va potentiellement durer dans le futur. Pour ce qui est de durer dans le futur, il y a tout ce qui est le bâtiment, puisqu'on ne va pas détruire tous les bâtiments d'un coup, a priori ça va prospérer. Tout ce qui est innovation, la recherche scientifique par exemple, ou encore tout ce qui va être créer des produits, donc écrire un livre ou créer un nouveau type de papier toilette par exemple. Voilà pour les trois grandes catégories. Alors, bien sûr, les missions qui touchent au passé, elles ont un impact sur le présent et le futur. Celles qui sont les missions du présent, elles ont un impact sur le futur. C'est un peu quand même légèrement perméable, mais disons que c'est un peu dans les grandes idées. Je trouve qu'on n'aborde pas les choses de la même manière quand on cherche à comprendre le passé, à aider quelqu'un dans le présent ou à construire quelque chose pour le futur. Et après, bon, la classification que je viens de donner, elle relève de ma sensibilité. C'est une suggestion. Après, chacun peut se dire, bah, moi, en fait, je considère que médecin, c'est un métier plutôt tourné vers le futur. Soit, si vous le voyez comme ça, peu importe. L'idée, c'est de comprendre un peu l'état d'esprit qu'il y a derrière la classification. Et d'ailleurs, par exemple, si je prends le métier d'instituteur, je trouve que ça peut être vu à la fois comme un métier du présent, si on considère que la mission, c'est de rendre l'apprentissage intéressant, par exemple, pour les élèves qui sont en classe aujourd'hui, ou bien on peut se dire que c'est un métier du futur, si on considère que ça aide à inculquer des valeurs phares qui guideront les élèves tout au long de leur vie. Donc il y a des métiers qui peuvent appartenir aux deux, en fait, ça dépend du prisme avec lequel on les regarde. Donc passons à la partie de l'application de l'exercice. La question que vous pouvez vous poser, c'est: à quelle période est-ce que j'ai envie de contribuer? Je me sens plus à l'aise à comprendre le passé, à faire quelque chose pour les gens d'aujourd'hui ou à construire quelque chose pour le futur. Ça peut être la première manière de se poser la question. Et il n'y a pas de mauvaise réponse, il n'y a pas des types de missions qui sont mieux que les autres, elles sont toutes positives, elles apportent toutes quelque chose. La question, c'est vous, qu'est-ce qui vous parle à vous? Et si vous ne trouvez pas spontanément la réponse, ce que vous pouvez faire, c'est de reprendre votre fameux carnet qui vous suit depuis l'introduction de cette méthode Ikigai, n'est-ce pas? Et dans ce carnet, notez les métiers que vous trouvez désirables, positifs. Là, ça peut être ceux qui vous viennent en tête maintenant ou bien ceux que vous croisez. Et de les noter indépendamment de ce que vous êtes capable de faire. C'est-à-dire que, par exemple, même si vous n'avez pas fait d'études de médecine, mais si vous trouvez que le métier de médecin, c'est quelque chose qui vous parle, vous vous dites c'est vraiment une belle mission, ça me parle, j'aurais aimé faire quelque chose comme ça, ben notez-le. Et au bout d'un moment, donc si vous avez réussi à en noter plusieurs pendant le fameux mois pendant lequel je vous ai proposé de faire les exercices, au bout de ce mois-là, regardez tous les métiers que vous avez notés et demandez-vous, est-ce que ces métiers, ils ont l'air de plutôt appartenir à des missions du passé, du présent ou du futur? C'est une manière de trouver un peu un axe pour votre mission altruiste. Voilà pour l'exercice 1 et maintenant on va passer à l'exercice 2. Dans cet exercice 2, la question qu'on va se poser c'est: quel être est-ce que j'ai envie d'aider? Donc qui est-ce que j'ai envie d'aider? À nouveau, c'est un peu une question de segmentation. La question c'est: est-ce que vous avez plutôt envie d'aider les êtres humains, les animaux ou les végétaux, par exemple, ou on va dire les éléments de la terre? Et ensuite, une fois ça décidé, c'est de se dire d'aller un cran plus bas. Est-ce que si j'ai envie d'aider les humains, est-ce que j'ai envie d'aider les bébés, les seniors, les gens qui sont malades, les pauvres, les femmes? En gros, voilà, c'est de trouver un segment de la population des êtres humains et de trouver ceux qu'on a envie d'aider, ceux pour lesquels on ressent une certaine empathie. Quand on voit leur situation, on se dit c'est pas possible, il faut faire quelque chose. Si c'est les animaux, on peut se demander est-ce que j'ai envie d'aider les animaux de compagnie, ceux en voie de disparition, etc. Pour passer à l'application de l'exercice, pareil, vous pouvez le noter dans le carnet, spontanément, là, maintenant. Et si ça vient pas, faire comme pour l'exercice 1, c'est-à-dire dédier une page dans le carnet à ça. Et quand vous croisez une personne ou un animal ou un arbre et que ça vous touche, que vous vous dites qu'il faudrait faire quelque chose pour eux, eh bien, notez-le dans le carnet. Et vous pourrez revenir dessus dans un mois ou un peu plus et regarder tout ça à nouveau avec du recul et voir ce qui ressort, voir le type d'être que vous avez le plus envie d'aider. Et ça vous donnera un autre angle d'attaque de votre mission. C'est tout pour l'exercice 2 et on va passer à l'exercice 3. Dans cet exercice 3, on vient à un exercice un petit peu morbide. La question qu'on va se poser, c'est comment est-ce que je veux que les gens me décrivent à mon enterrement? Passons tout de suite à l'exercice. Imagine que tu es mort. Oui, imagine que tu es mort. Les gens sont réunis le jour de ton enterrement. Et notamment, il y a des personnes qui ont pu voir le fruit de ton travail. Ces personnes prennent la parole et décrivent la contribution que tu as apportée à ce monde. Que disent ces personnes? Est-ce que tu as envie que les gens disent « Oh là là, Isis, quelle tristesse, elle a sauvé des millions de vies » Ou bien tu as envie qu'ils disent « Ah, oh, Isis, quelle tristesse qu'elle nous ait quittés, elle avait trouvé le vaccin contre une maladie mortelle » Ou bien encore, est-ce que tu as envie qu'ils disent « Ah, oh, Isis, quelle tristesse qu'elle nous ait quittés, elle a pourtant aidé des milliers de personnes à révéler leur talent » Bon, en gros, c'est quoi la phrase que vous aimeriez que les gens disent de vous à votre enterrement et qui décrira ce que vous avez apporté dans ce monde, votre pierre à l'édifice, pourquoi est-ce que votre existence a eu un sens et a aidé ce monde à aller un petit peu plus loin? En principe, quand on se pose cette question, on prend un tel recul en s'imaginant à la fin de sa vie que parfois ça peut être elle qui fait émerger la meilleure réponse parmi tous les exercices. Le but d'avoir des exercices différents, c'est d'essayer de trouver différents angles pour trouver des sensibilités et trouver ce qui vous touche et qui peut faire partie de votre mission altruiste. Voilà pour l'exercice 3, maintenant on va passer à l'exercice 4. C'est parti pour le quatrième et dernier exercice. La question qu'on se pose dans cet exercice numéro 4, c'est qu'est-ce qui me met en colère? Dans l'étape 1 de la méthode, on avait parlé de jalousie. Et donc là, on passe à un autre type d'émotion qui est la colère. Donc qu'est-ce que la colère a à voir avec ta mission altruiste? Eh bien, savais-tu que la colère, c'est une émotion qui nous amène à nous révolter contre ce qui est en train de se passer? En gros, c'est un signe que ce qui est en train de se passer ne correspond pas à nos valeurs. Et ça initie un désir de modifier ça. Donc quand on trouve des choses qui nous agacent, qui nous titillent, on trouve des pistes de mission. Pour vous donner un exemple, voici cinq choses qui, moi, m'énervent, ou plus précisément, on va dire, qui me titillent, parce que c'est pas toujours une grande colère, c'est plutôt quelque chose qui me donne envie d'agir, qui me donne envie de faire quelque chose pour que ça change. Exemple numéro 1. Quand quelqu'un croque une pomme une fois, puis jette les 90% de la pomme restante à la poubelle. Exemple numéro 2, quand un chauffeur de taxi ouvre sa fenêtre pour jeter un bout de papier par terre. Exemple numéro 3, quand un ami me dit qu'il n'est pas heureux dans son travail, mais il reste quand même. Exemple numéro 4, quand quelqu'un me répète X fois qu'il a envie de changer, de faire quelque chose, mais qu'après plusieurs mois, il n'a toujours pas fait un seul pas dans cette direction. Et Exemple numéro 5, quand quelqu'un se plaint du mauvais temps à Paris, alors que c'est intrinsèque à cette ville. Et donc si vous avez remarqué l'exemple numéro 3 que j'ai donné est l'exemple qui est à l'origine de ce blog. Donc maintenant c'est à vous, quelles sont ces petites choses comme les 5 que je viens de citer, ces petites choses qui vous donnent envie de faire quelque chose pour que ça change. Quand vous le voyez, vous vous dites, oh, c'est pas possible, faut faire un truc là. Vas-y, ben moi je vais faire un truc, je vais faire un truc. Voilà, il faut trouver ça. Donc si vous avez des idées dès maintenant qui vous viennent, tant mieux, c'est parfait. Mais sinon, vous pouvez le noter dans votre petit carnet au fur et à mesure que vous le ressentez dans le fameux moi de l'exercice de l'ikigai. Et c'est fini pour ce quatrième et dernier exercice, mais juste avant de terminer, un petit exercice de clôture, puisqu'on a eu quatre exercices pour formuler sa grande, enfin pour trouver sa grande mission. Donc maintenant, comment la formuler? Eh bien, l'idée, c'est de reprendre tout ce qu'on a écrit dans son carnet et d'essayer de formuler une phrase de mission. Donc, une mission, dedans, il faut que ça inclue qui est-ce que je veux aider et quels problèmes ont ces personnes que je veux aider à résoudre. Quelques missions possibles, par exemple, aider chaque personne à être plus épanouie dans son travail. Une autre mission, aider les gens qui ont perdu un proche à remettre du bonheur dans leur vie. Autre exemple, limiter les dégâts causés à la planète pour laisser un environnement plus beau à mes enfants. Ce sont juste quelques exemples de missions. Il y en a bien sûr des milliards et des milliards de milliards, probablement. Je ne les ai pas toutes comptées. Et donc, essayez de noter ça sous la forme d'une phrase. Ce que je vous propose, pour pas vous prendre la tête et vous dire non, mais c'est pas ça la phrase, c'est pas la phrase parfaite, notez une page complète de phrase. Et comme ça, vous aurez de la matière et vous pourrez toujours plus tard aller barrer celles qui finalement ne correspondent plus, les changer un peu, modifier un mot, etc., jusqu'à ce que ça vous convienne. Et c'est difficile de trouver exactement sa mission. C'est pas grave si la phrase ne représente pas exactement votre mission altruiste, vous vous dites pas, c'est pas grave si vous vous dites pas, voilà, c'est ça, j'ai le déclic, c'était exactement la réponse que je cherchais. L'idée, c'est de trouver une direction et puis retenez la phrase, au bout d'un moment, retenez la phrase qui vous inspire le plus, qui vous paraît la plus pertinente, et plus tard, ça pourra toujours changer. Et je rajouterais que il faut pas non plus trop se prendre la tête sur cette mission. Le but, c'est plus le fait d'avoir une mission, ça permet de toujours reprendre le recul, de se dire est-ce que ce que je fais aujourd'hui, ça contribue à un peu l'œuvre de ma vie et ça fait que quand je serai sur mon lit de mort, je serai heureux de ce que j'ai fait, je serai heureux de ma contribution et je sais ce que les gens vont dire à mon enterrement. Une dernière chose sur cette grande mission, que se passe-t-il si je ne trouve pas ma grande mission? Alors déjà, ça peut arriver parce que trouver sa grande mission, c'est quelque chose de vaste. Si rien ne vous inspire, alors j'ai deux pistes à vous donner. La première, c'est de consulter des médias que vous n'aviez pas l'habitude de consulter. Par exemple, si vous avez l'habitude de regarder le JT à 20h et BFM TV, peut-être allez voir du côté de magazines alternatifs qui parlent de sujets qui ne passent pas forcément sur ces chaînes-là. Ce sont un peu d'autres cercles, d'autres milieux, d'autres types de missions altruistes, et ça peut vous donner des idées de métiers, de missions qui pourraient vous plaire et qui pourraient vous correspondre. Et la deuxième piste, c'est comme pour l'étape précédente, c'est d'essayer des choses. Donc par exemple, si un festival cherche des bénévoles pour faire les petites mains pendant le festival, participez, enfin si ça vous parle. Si une asso cherche quelqu'un ponctuellement pour faire un truc, participez. Si quelqu'un vous demande de l'aide sur quelque chose, participez. Essayez de varier de faire des choses que vous ne faites pas d'habitude pour explorer d'autres milieux, d'autres choses et peut-être tomber justement sur une action altruiste où vous vous êtes senti bien et vous vous êtes dit. Ça me parle, j'aimerais effectivement aider ces gens-là et j'aimerais les aider avec ce problème-là. Pour terminer cette étape 2 de comment trouver son ikigai, on va donc passer à la toute fin de la mission altruiste qui consiste à reconnecter l'étape 1 où on avait déterminé l'élément à l'étape 2 où là on vient de faire 4 exercices pour trouver la grande mission. L'idée c'est comment est-ce que mon élément peut répondre à cette grande mission. Pour prendre une petite image, c'est un peu comme si, là, dans les quatre exercices de la grande mission, on venait de déterminer la lune sur laquelle on a envie d'aller, et l'élément, c'est la fusée qui nous permet d'aller dessus. Donc maintenant que tu as trouvé ta mission plus grande que toi, il faut que tu trouves comment toi, tu peux y contribuer grâce à ton élément. Donc là, que faire? Eh bien, reprends ce que tu avais écrit en étape 1 dans ton élément, donc tes talents naturels, les activités que tu es particulièrement heureux de réaliser avec tes talents. Et c'est ça que tu dois utiliser pour contribuer à la grande mission. Donc prenons un exemple. Imaginons que ta grande mission, ce soit démultiplier les messages percutants qui donnent envie d'agir sur Terre. Il y a des milliers de façons de répondre à cette mission. Mais toi, comment est-ce que tu vas y répondre? Imaginons que dans l'étape 1, dans ton élément, tu as remarqué que tu es doué dans les présentations orales et que tu adores donner des conseils aux autres sur leurs présentations orales pour qu'ils s'améliorent. Eh bien, ta mission altruiste, le croisement entre ton élément et ta grande mission, ça peut être démultiplier les messages percutants qui donnent envie d'agir sur Terre, en accompagnant les managers à booster leur présentation orale. Là, j'ai donné les managers comme exemple, si c'est une population que tu as envie d'aider particulièrement, ou bien peut-être que tu as déjà de l'expérience là-dedans et ça serait une bonne idée. Voilà, c'est juste un exemple de comment est-ce qu'on rallie la grande mission avec l'élément. C'est vraiment, y a vraiment des milliers de combinaisons en fonction de ce qui a été déterminé dans l'élément et dans la grande mission. Donc, je donne juste cet exemple pour que tu puisses le reproduire chez toi. Cette étape 2 de la méthode Ikigai est maintenant terminée. Je vous remercie beaucoup de l'avoir écoutée. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à liker la page Facebook, facebook.com/lesnouveautravailleurs. Et je vous donne rendez-vous pour l'étape 3 de ma méthode Ikigai dans le prochain podcast. Ciao, ciao!